Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où je retrace chaque jeudi matin le parcours de mes invités depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle, un média web féminin que j'ai lancé en 2005 et revendu et quitté durant l'été 2020 après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte de trois autres podcasts, Histoire de Daron où j'interview des pères sur leur paternité, Histoire de Mec où je fais parler des mecs, de masculinité et un dernier intitulé La Reco de Fab Flo qui se passe en live sur Twitch et où on discute avec mes invités de leur reco culturel. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure chaque jeudi à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast préféré. Cette semaine, je reçois Romain Le Saffre, qui est plus connu sous le pseudo Château Brutal au sein du groupe Hernadette, le groupe de air guitare et de chant dans des brosses à cheveux. Bah oui, ils ont fait ça. Il raconte comment il est passé de Jean-Michel timide, comme il dit lui-même quand il avait 8 ans, à exulter sa colère dans la batterie dans des groupes de rock, à côté de sa carrière de graphiste et de directeur artistique en agence de pub. Il explique aussi comment il en est venu à participer au championnat de France d'air guitare, complètement par hasard, et puis la création de ce groupe Hernadette, qui démarre par une blague et qui a fini par devenir, comme il dit lui-même, une blague infinie, jusqu'à les amener à l'Olympia ou sur la scène de Bercy aux côtés de Mathieu Chédid, ou encore à faire un petit spectacle dans la loge de Johnny Hallyday, parce que oui, après tout, pourquoi pas. Enfin, on parle de son bouquin « L'étonnant pouvoir du trac » qui vient de sortir, où il a recueilli des dizaines de témoignages de tas de corps de métiers différents pour mieux comprendre l'origine du trac et réussir à le gérer, parce que forcément, on y est tous confrontés un jour ou l'autre. On a enregistré chez lui, au milieu de sa campagne nordiste et des oies sauvages que vous entendrez peut-être, et moi de mon côté, j'espère que vous apprécierez la personnalité très brute de fonderie de Romain. Merci à vous et bonne écoute.
Nous avons donc deux bernaches du Canada donc voilà, qui reviennent avec le printemps, ça fait plaisir.
Donc on est au beau milieu de la campagne nordiste.
Voilà, c'est ça.
Cher Romain. Et vraiment, quand, vous n'avez pas l'image, mais vraiment, c'est vert.
Voilà, c'est vert. C'est au niveau Feng Shui, on est pas mal, ça fait de l'espace pour laisser le temps passer.
Oui, parce que toi, t'as une vie de troubadour, en fait, à la base.
Non, à la base,
ah
moi,
oui,
j'ai...
Ah oui, à la base, t'es un businessman.
À la base, j'avais un vrai métier, comme on dit dans le métier. et moi, en fait, j'ai toujours voulu faire du graphisme. C'était vraiment le truc. Ouais. Je faisais pas de foot, de sport, de rien du tout. C'était dessin, graphisme non-stop. Et puis après, donc, j'ai fait les SAT à Roubaix, hein. Et j'ai trouvé du taf dans la minute qui suivait. Et j'ai passé des années avec un boulot, certes, pas le plus fandard du monde, mais qu'est-ce que je me suis marré en entreprise, quoi. Je pense que j'ai plus fait le con en entreprise que pendant mes études, quoi.
Ah ouais?
Ah ouais, c'était génial.
Bon, on va en reparler, mais en fait, Romain, t'as plein de casquettes, en fait. T'as fait plein de choses, j'ai l'impression, dans ta vie. On va avoir une interview un peu fouillie.
Voilà, c'est ça, ouais.
Mais c'est très cool en même temps. Mais t'es aussi et surtout connu parce que t'as fait partie du groupe Hernadette pendant des années. Tu en fais toujours partie,
J'en fais toujours partie. Alors aujourd'hui, j'ai laissé un peu plus de place à la scène, enfin un peu moins de place à la scène. Ouais. Mais effectivement, le groupe, c'est une espèce de famille. Il y a toujours plein de projets à droite, à gauche. Mmh. Donc voilà, quoi.
Tu sors un bouquin?
Oui.
Sur le trac.
Voilà, je sors un livre sur le trac parce que j'ai eu plein d'aventures avec le trac. Parce que comme j'ai eu plein d'aventures professionnelles ou extra-professionnelles, hein, que ça soit donc en entreprise, j'ai été aussi intervenant dans des écoles, j'ai été batteur pour la rigolade. Mais ceci étant dit, on a quand même fait des concerts devant des milliers de personnes, ça n'a pas empêché. Et puis après, le fait d'être professionnel de la scène, ça m'a fait plein de raisons d'avoir le trac jusqu'au moment où le trac a commencé à prendre un peu beaucoup de place.
Ouais.
Et je me suis dit, plutôt que de me laisser emmerder par ce trac, je vais en faire quelque chose, je vais en faire un docu. Et donc j'ai bossé avec une prod qui était à fond sur le projet, on a écrit le docu, on a été voir les chaînes et aucune chaîne n'en a voulu. Ah ouais. Donc il y a un moment, je me dis bon bah c'est quand même ballot. Il faut quand même faire un truc et bon bah je vais appeler Florence Servan-Schreiber avec qui j'avais déjà travaillé, qui est une amie, et puis je lui dis comment on écrit un bouquin, et puis elle me dit bah si tu veux je peux essayer de voir si tu peux avoir un rendez-vous chez Marabout. 3 jours plus tard j'étais chez Marabout un peu à l'arrache. Et puis j'ai dit, voilà, je vais écrire un bouquin sur le track, parce que, bon, voilà, ça m'intéresse. Ils ont dit d'accord. Et donc là, pour moi, l'idée avec ce bouquin, c'était, bon, il y a mon expérience, ça c'est un truc, mais pour moi, le plus fort, c'était de faire parler aussi les autres. C'était l'occasion de rencontrer plein de gens, et puis je me suis dit, bon, ah, c'est cool, bon, moi je viens du milieu du rock ou bien de l'humour. Bon, je connaissais des gens dans le rock et l'humour. Et je me suis dit, si on élargissait un petit peu, donc l'idée c'était d'aller voir bah, la danse classique, comment ça se passe quand on est chef d'orchestre, bon, ok, c'est cool. Après, les comédiens de théâtre, bien sûr. Et puis après, on va sortir un peu de ça. Je suis allé voir des chefs d'entreprise, qu'est-ce que ça fait quand tu dois parler devant 500, 1000 personnes. Après, je suis allé voir des hommes politiques, donc j'ai rencontré deux ministres, enfin deux anciens ministres, de voir un petit peu est-ce que le track pouvait leur poser problème. Et puis après, les sportifs de haut niveau, des champions olympiques, etc., des avocats, enfin, j'ai élargi, mais avec un commandant de bord. Et oui, quand tu transportes 200 personnes dans ton avion, forcément, bah, t'as un peu les pépettes aussi, de voir comment eux, ils géraient ça. Justement, ils ont des formations, évidemment, pour gérer la peur, le stress, le track, tout ce qu'on veut. Et donc, j'ai découvert un million de choses, c'était passionnant, jusqu'au moment où je me suis dit, bah, Alors, on ne guérit pas le crack, mais en tout cas, on apprend à mieux vivre avec. Et donc, je suis allé voir une psychiatre, des praticiens de MDR, de PNL, de choses comme ça. Mmh. Et puis, ça a fait ce livre.
On en reparlera un peu après, si tu veux. Mais la première question moi, que je pose à tous mes invités, c'est en fait, à quoi tu ressemblais, Romain, quand tu avais 7-8 ans ?
Oh là, c'était... Ben, pas grand-chose. Pas grand chose. En fait, je savais pas. Moi, j'étais content. J'étais juste là. J'étais un petit mignon, comme il disait. Hein, plutôt timide. Voilà. Je faisais mes petits dessins. Puis j'embêtais personne. Et voilà, c'était plutôt Jean-Michel Calme. Et c'est moi, plutôt la timidité qui m'a poussé à dire bon, ok. Bah, on va se jeter dans la gueule du loup. On va monter sur scène. On va un peu. On va rentrer dedans, quoi.
Mais quand ça ?
Bah, vers les 20 balais, quoi.
Ah oui, plus tard.
Plus tard, mais à l'époque.
Mais avant
ça,
il se passe plein de choses.
Il se passe plein de choses entre les deux. Cool. Mais 7-8 ans, voilà, petit mignon gentil.
Ok.
Voilà.
Comment tu passes de petit mignon gentil à un mec qui a envie de se jeter sur scène, se jeter dans le vide d'ailleurs ?
Bah, c'est simple, il y a un truc où tu te dis. Tu sens qu'il y a un moment, mince, c'est pas aussi simple que ce que tu voudrais, et puis t'as envie de pousser les choses, mais t'as pas les clés, quoi. Parce que bon, quand tu es timide, tu dis bon, déjà dire bonjour à quelqu'un que tu connais pas, c'est compliqué.
Toi, t'es intimide en fait, ou c'est ton éducation qui t'a.
Mon éducation, enfin, et mon caractère, les deux, hein, ont fait que voilà, j'étais Jean-Michel timide, quoi. Voilà. Et puis tu sens à un moment le truc de ouais, c'est pas normal, ça me fait chier, ça me fout en colère. Et puis la colère, moi, je l'ai passée dans la batterie.
Ok.
Et j'ai jamais. Était un pro de la technique. Par contre, pour ce qui est de balancer les fûts et péter les cymbales, ça. Et vraiment, et je me suis dit, ah bah c'est génial, je peux en faire quelque chose.
T'as commencé quand la batterie ?
Ah bah 20 balais un jour.
Oui, donc, voilà, tardivement
c'est,
quoi.
C'est tardivement. Ouais. Ouais, y avait. Alors le dessin c'est super parce que du coup je dessine énormément et ça te met dans un état de transe, de limite de méditation. Ouais. Hein, et puis après je dis ok c'est cool. Mais j'ai besoin d'une activité qui me fasse rencontrer des gens, qui me permette de socialiser et qui permette de sortir tout ça, quoi. Et donc, je me suis retrouvé à jouer comme un énorme bourrin. Assez rapidement, j'ai un pote à qui je faisais mes études, qui était du Sud et qui me fait « Romain, ça te dirait pas qu'on joue de la musique ensemble ?» J'ai fait « Ben, je sais pas jouer. Ben, c'est pas grave, achète une batterie, puis ça va aller. » Et donc, voilà. Et
donc, tu savais pas jouer.
C'est ça qui est bien avec le rock, hein. Tu fais un poum, un tchac. Voilà,
c'est terrible.
Je pouvais pas faire du jazz, c'était pas possible. Pour moi, tout convergeait vers le rock, quoi. C'est vraiment, il faut que ça soit fort, que ça fasse mal, que ça, tu vois.
Mais t'écoutais déjà du rock avant ou...
C'est venu à peu près au même moment.
Okay.
Enfin, j'écoutais de l'électro-indus, tu vois, venant du Nord,
ouais.
Tous les groupes avec des synthés, avec des sons hyper agressifs et tout ça. Enfin, vraiment. Et finalement, ce qui rejoignait le rock, mais avec des synthés. Mais t'avais vraiment ce truc d'énergie comme ça ou de je sais pas comment dire d'espèce de colère que tu passes à travers des sons, et ça c'est pour moi c'était un truc hyper hyper fort, quoi.
Tu me disais tout à l'heure que la masculinité, c'est un sujet qui t'intéressait. Tu avais cette sensation que cette colère-là, elle te venait aussi de quelque part au fond de toi, qu'il fallait que tu la foutes à un moment donné.
Ah, exactement. Ouais. Exactement. Quand tu es timide, du coup, tu as la sensation de ne pas être un vrai homme. Parce que l'image qu'on a du vrai homme, c'est quoi? C'est le mec qui est costaud, voilà, le capitaine de l'équipe de foot américain, tu vois. Et vraiment, t'es là, waouh, ok, voilà, les mecs, les solides, quoi. Et si t'as une sensibilité qui est différente, qui te fait voir d'autres choses différemment, eh ben du coup, waouh, ta place, elle est compliquée. Alors que quand j'arrive derrière ma batterie et que là, j'envoie toute la purée, là, on se pose plus la question, quoi.
Ok. Et donc, t'avais la sensation de retrouver un peu une forme de, je sais pas, de masculinité quand tu...
Complètement.
Ok.
Complètement.
Que tu avais mis de côté pendant toutes ces années-là.
Ben que je n'arrivais pas
à exprimer.
À exprimer, bien sûr.
Ok.
Bien sûr. Donc ça, c'est rigolo. Puis il faut du temps après, vraiment beaucoup de temps pour comprendre tout ça.
Ouais.
J'ai vu vraiment les gens avec qui je jouais, ils me disaient mais tu tapes comme un bourrin. Je dis bah non, je tape. Enfin, pourquoi je taperais autrement, quoi. Et vraiment, j'ai fait plein de groupes après où c'était « Ah, tu tapes trop fort !» Et à un moment, ça m'a pété les couilles. J'ai d'abord trouvé des musiciens avec qui c'était cool de taper fort. Et après, j'ai pris dans l'autre sens, quoi. Et après, on a fait du coup des groupes. J'ai passé des moments sur scène incroyablement géniaux, quoi.
Alors, raconte un petit peu comment tu passes d'un pote du Sud qui te dit un jour « Vas-y, viens, on va faire du rock » à... Vous avez monté un groupe, c'est ça?
Ouais, en fait, moi, je sais pas, j'en ai fait 15 des groupes, peut-être.
Ouais.
C'est vraiment le truc où un bon groupe, c'est quelque chose de vraiment précieux et difficile. C'est vraiment le truc où t'as les bonnes personnes, avec la bonne musique, au bon moment, avec les bons savoir-faire de chacun. Et c'est pas pour rien si c'est difficile d'avoir un groupe qui marche dans la durée et pas juste, je te sors un demi-album et terminé, quoi. C'est vraiment... Et vraiment, il y a eu un groupe qui s'appelait les Domestics. Donc ça, c'était début 2000. Je rencontre un mec par petites annonces. Bon, on joue ensemble, on trouve d'autres gars, il était chanteur. Bon, puis ça ressemble à rien. Et puis le mec, il me dit « Ah bah, avec les deux mecs là, ça va pas, mais avec toi, j'ai envie de continuer à jouer. » Ok, bon, cool. Et puis là, je me retrouve à bosser à l'époque chez DDB. Le rédac avec qui je bossais était bassiste. Bon, bah viens, on fait un truc. Et là, c'est les trois couillons, quoi. On s'appelle toujours les connards, d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment... Et on s'est retrouvés au bout de 10 dates à jouer à l'aéronef devant 1000 personnes et tout. Enfin, et Printemps de Bourges et tout ça. Et tout a été assez magique. Alors qu'on était des gros couillons à boire la binouze. Et on composait un morceau par semaine. C'était hyper simple. Il y a vraiment un truc magique, quoi. Et puis, après, comme toute histoire de groupe de rock, ça a fini dans un bordel innommable. Et puis voilà. Et après, j'ai refait d'autres groupes, dont Château Brutal, où là, c'est la quintessence de « Vas-y, j'ai vraiment envie de bien me marrer sur scène, de pouvoir faire exactement ce que je veux. » On s'est retrouvés à deux, une guitare, une batterie, enfin, guitare, chant, batterie. Et puis, j'ai viré la moitié de mes fûts parce que c'était chiant à transporter, à accorder, à tout ça. Bon. Et puis, vraiment... droit à l'essentiel, quoi. Et là, pareil, ça fait le groupe existe toujours, hein. On a fait plus de 12 ans qu'on joue ensemble, et on a fait un nombre de conneries, et justement on a tiré parti de l'erreur de nos faiblesses pour en faire quelque chose, quoi. Et de dire ouais, on fait des pains sur scène, et alors quelqu'un est mort, non, tout va bien. Donc on sera jamais professionnel de toute façon avec la musique qu'on fait, c'est tellement rêche que ça sera jamais grand public, donc faisons à fond ce qu'on a à faire. Puis on a fait plein de concepts débiles de concerts avec une copine habillée en soubrette qui venait faire des crêpes et qui distribuait les crêpes pendant le concert. Ça a fini évidemment avec les crêpes qui volaient dans le truc. On a joué sur le toit d'un bus anglais, on a joué en prison, on a fait plein de trucs. Et après avec des spécialités de pogo aussi, en disant bon les pogo c'est bien gentil, mais maintenant on va faire des pogo assis, puis des pogo allongés, puis des pogo, enfin tout un tas de trucs. Et
Comment tu fais un pogo allongé?
On avait joué, ils avaient installé une plage, et donc on jouait devant la plage, et dit bon là tout le monde allongé, et puis donc les gens se roulaient comme ça, allongés, et se passaient les uns sur les autres, c'était un bordel sans nom. Donc voilà, ce genre de conneries. Et du coup, c'est plutôt devenu un groupe d'entertainment, de performance rock'n'roll plutôt que de rock, quoi.
Et à côté de ça, tu l'as glissé, mais t'as vécu aussi une carrière en agence de pub.
Oui, oui. Donc à la base,
t'es graphiste.
À la base, je suis graphiste. Donc le métier et que j'adore toujours, hein, j'adore ce métier. C'était de concevoir des visuels, et puis j'en ai fait pendant 15 ans.
Comment t'es devenu graphiste en fait? Parce que on est passé de t'es timide à j'ai besoin de taper sur des trucs.
Entre les deux, il y avait le dessin.
Entre les deux, il y avait le dessin. Voilà. Et donc t'as fait des études, c'est ça?
J'ai fait des études d'art graphique.
Okay.
Enfin, pour moi, c'était hyper clair. Enfin, dès que j'ai eu, je sais pas, 14 ans, c'est je vais faire des études d'art graphique. Point barre. Enfin, et donc j'ai trouvé du boulot assez facilement. Et puis comme je disais tout à l'heure, je me suis vraiment bien marré. Et le seul truc, c'est que.
Mais tu voulais bosser dans la pub. C'est parce que c'est un peu spécifique aussi.
Alors, je voulais bosser dans la pub, ouais, parce que pour moi, j'avais du mal à envisager le graphisme culturel et tout ça. J'avais trop la pression d'avoir un CDI et de me dire, je peux me barrer, prendre mon appart, avoir mon indépendance, vite, voilà. Je veux un truc.
Il fallait un truc solide.
Je veux
solide,
du concret, quoi.
Okay.
Voilà. Et donc, une fois que... Enfin, dès que j'ai pu, j'ai fait ça. En sachant que oui, j'avais pas forcément conscience que il y a le graphisme d'affiches de cinéma, de ce genre de choses, de choses beaucoup plus pointues. Non, pour moi la pub, j'étais content de faire ça. Enfin, c'était cool, tu vois. J'avais pas de soucis puisque j'ai fait de la pub. Après, j'ai fait du packaging aussi, du design graphique pur, c'est-à-dire que tu dessines un logo et que tu vas aller vendre 4 lettres. Et ça, c'est vraiment passionnant, quoi. Juste le dessin de la lettre, le dessin j'ai vraiment l'exemple du. Le patron qui me montre la première semaine où j'arrive là, un pack de Danao en disant « Tu vois, c'est génial. » Et je le regarde, je fais « Comprends pas. » Et puis après, j'ai appris à regarder, quoi. Donc c'est grâce à ce patron-là, j'ai eu des yeux et j'ai commencé à pouvoir regarder vraiment les choses. Et là, tu as un autre niveau qui se met en place. Et après, je me suis retrouvé directeur artistique et après directeur de création. Donc le directeur des créations, c'est celui qui dirige la créa dans la boîte. Et là, donc, je manageais 25 personnes. Donc je me suis retrouvé à 32 balais à manager 25 personnes. Donc c'était un autre métier de créatif. C'était vraiment plus dans l'idée, le concept. Et après, tu fais faire et tu manages des gens pour aller plus loin possible.
Et ça te plaisait, ça? Parce que c'est quand même pas le même, c'est pas le même métier, quoi.
C'est
tu
pas
vois.
Le même métier, mais j'adorais ça parce que vraiment, moi, je suis moitié... c'est autant créatif qu'autant dans l'humain, quoi. J'ai besoin de faire avec des gens. Faire tout seul, ça m'amuse beaucoup moins. Donc, okay. Donc c'est pour ça que la musique, c'est en groupe. C'est pour ça que le dessin, c'était finalement un peu chiant parce que le dessin, c'est tout seul, quoi. Donc, et donc manager des gens, ouais, j'ai appris plein de trucs aussi. J'ai eu beaucoup de chance de tomber dans une boîte qui s'appelle ETO. Dans le coin. Et puis après, c'était moitié Lille, moitié Paris. Donc c'était aussi toujours les allers-retours à droite à gauche. Puis tu commences à être sur des budgets nationaux, puis à devoir taper dedans. Donc c'était assez rigolo comme aventure. Et humainement, c'était une boîte qui était extraordinaire, où il y avait vraiment la confiance. C'était vraiment pour... C'était l'entreprise libérée avant l'heure, quoi, où j'avais 100% de confiance de la direction et tu pouvais y aller, quoi. Génial, je me suis vraiment éclaté.
Okay.
Jusqu'au moment où j'ai trouvé que ce métier avait un petit problème pour moi de sens. Et c'est le même moment où...
J'allais dire, en fait, qu'il y a vraiment j'ai l'impression qu'il y a vraiment un grand écart entre ta vie sur scène où t'as l'air d'être totalement rock et punk, quoi. Et puis le métier de pubard, en fait. Enfin,
bah,
de pubeur.
Oui, mais sauf que dans ce métier-là, c'était cool pour moi parce que j'étais le gros rigolo de la bande. Okay. Donc quand t'es le gros rigolo de la bande, et par exemple tu rentres le matin et tu ouvres la porte, tu fais bonjour et tu vois que ça répond mollement. Tu dis on l'a refait et là tu ressors et puis et je me faisais constamment des conneries comme ça où j'arrivais en rendez-vous client avec donc le directeur marketing de telle grosse marque machin blabla et je dis oui bonjour, m'appelle Romain, donc je suis le DAF de l'entreprise, et puis là tu commences et puis il fait mais c'est quoi ce crétin, et puis tu pars dans des conneries, ouais. Comme ça, et mon jeu c'était de faire du stand-up en entreprise, en fait, voilà.
Tu jouais, quoi.
Je jouais, oui. C'est plus marrant, puisque enfin, tout ça n'est pas très sérieux. Hein. Ça n'est que des gens qui vendent des choses. Et c'est ce que je dis maintenant, sans cracher dans la soupe.
Tu vois, il y a plein de gens qui se prennent au sérieux dans le monde de la pub. Et c'est
oui.
pas, enfin, voilà,
oui.
ça fait partie de leur... C'est important aussi, je crois, pour eux, même en termes de valeur, tu vois, de se prendre au sérieux. Parce que sinon, tu vois très vite que... que finalement ils amènent pas grand chose au truc, quoi.
C'est beaucoup de paillettes, quoi. Alors ouais. C'est assez drôle. Moi j'ai vraiment vu le truc de la pub du Nord où il y a ce côté infériorité face à Paris. Et une fois que tu bosses à Paris, tu fais ouais, en fait il y a juste beaucoup de paillettes. Il y a beaucoup de talent, hein. Ouais. Mais il y a aussi pas mal de moments où tu te dis bon, c'est pas du tout moins bien, quoi. Les savoir-faire sont aussi bien. Il y a vraiment un truc c'est juste du point de vue, quoi. Ouais. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est les boîtes où j'ai bossé, c'est des boîtes où j'ai passé vraiment des super moments humainement. Voilà, c'est chez DDB, là, il y avait le studio photo au moins un, et puis le patron du studio photo était un gros fan de musique, donc il avait installé sa batterie, les amplis guitare, machin, puis on allait se faire des apéros, concerts avec les potes, et bon, bah voilà, c'est plutôt cool, quoi. C'est plutôt cool.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des reco-séries, des reco-ciné, des reco-livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ça m'intéresse que tu me racontes sur ce complexe d'infériorité du provincial par rapport à Paris, quoi. C'est un vrai truc, ça.
C'est un vrai truc. C'est un vrai truc. Alors, c'est vrai que...
Tu sais pourquoi ça m'intéresse ? Parce qu'en fait, les gens qui écoutent, ils viennent peut-être de province et ils se disent « Ok, Paris, c'est loin et j'y arriverai jamais, quoi. » Tu vois ?
Alors, c'est une bonne transition, ouais, vers mon expérience. C'est que, donc, je me suis retrouvé à Paris. Je me souviens, les premiers rendez-vous que je fais avec des grosses marques, là, je ne la ramène pas. Je ne la ramène pas. Et puis, en fait, je vois que ça se passe très bien. Et c'est quoi le retour de ces marques-là ? C'est ouais, quand vous bossez ensemble, on dirait une famille. C'est génial. Et là, on se rend compte qu'en fait, avec notre façon nordiste de faire les choses, on crée quelque chose. On crée quelque chose de différent, de fort et qui a de la gueule, quoi. Et donc, à partir de là, tu te détends vraiment en disant « Ok, j'entends bien que j'aurai jamais les lions d'or de machin et c'est pas mon univers et effectivement c'est un peu trop de ma fenêtre, hein, sur pareil, hein, sérieux. D'ailleurs avec Hernadette on s'est retrouvé à faire une intervention pour une soirée de la pub. Je pense qu'on s'est jamais autant fait chier. On s'est fait chier comme des rats morts. Et là je me dis mais merde, putain, c'est un métier de créatif. Mais tout le monde, je sais pas, il y a vraiment, et c'est une sensation encore, tout le monde, la perception que j'en ai, c'est que il faut rester bien dans des cases. Ça n'a aucun sens, quoi. Ça n'a aucun sens. Donc effectivement, c'est pas là le métier où ça va être le plus créatif, et la créativité, tu vas la trouver ailleurs, en fait. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que dans les boîtes où j'ai bossé, j'ai rencontré des gens ultra créatifs dans tous les genres, enfin. Et ça, c'est la liberté, elle est là, en fait, hein.
Tu disais que ça commençait à manquer de sens à un moment donné ?
Oui. Oui, oui. Et vraiment, pour moi, c'est devenu... globalement, hein, quand tu vois les pubs à la télé, tu te dis, mais... Non, mais on est en train de vendre des choses dont les gens n'ont pas besoin et de l'argent qu'ils n'ont pas. Ça n'a aucun sens, quoi. Et là, c'est... si vous avez telle voiture, vous serez plus heureux. Ben non, je t'emmerde, en fait. Je peux être très heureux sans ta bagnole. Arrête de raconter les conneries. Ça n'a pas de sens, ce que tu me racontes. Donc voilà, il y a vraiment ce truc-là. Et après, je me suis retrouvé... bon, je l'ai fait rapidement. Moi, j'ai toujours fait de l'air guitare, parce que ça m'a toujours fait marrer.
Non, mais comment tu fais de l'air guitare ?
Bah, comme tout le monde. C'est-à-dire, il y a un moment, t'écoutes du rock et tes mains, elles font... Comme je mets ça à ma fille qui a 6 ans, elle le fait instinctivement. Enfin, voilà. Et puis moi, ça m'est resté. Je me suis dit, tiens, ça m'amuse. Alors, les autres trouvaient ça débile. Je dis, ouais, ça m'amuse. Donc, si ça m'amuse, ça m'amuse. Je vois pas où est le problème. Et je me souviens, pendant mes études, à monter debout sur les tables avec les grandes règles en métal d'architecte. Et puis voilà. Et puis, bon, et un jour, c'était en 2000, je vois sur Arte, championnat du monde d'air guitare. Et je fais, waouh, ça existe vraiment. Je vais y aller un jour. J'y vais. Et puis le hasard de la vie fait que je vois dans d'en sortir donc le magazine des sorties dans le monde d'avant quand on sortait.
Oh là là.
Et je vois concours officiel d'Air Guitar. Je fais nom de nom, bah j'y vais. Et là j'y vais et puis je gagne. Je me retrouve en championnat de France. Donc c'était le premier championnat de France, c'était vraiment le tout début de l'Air Guitar France, hein, c'était 2005. Et championnat de France, c'est devant 4000 personnes à la Villette, avec un parterre de journalistes, avec dans le jury, je sais plus, il y avait Didier Vampas ou des gens comme ça, ou Manœuvre. Enfin, et là, on se retrouve là, puis on fait waouh, ok. Et là, je me dis, c'est génial ce truc, parce que en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est le kiff de la scène. Par contre, aller bosser pendant des années, ça m'emmerde. Donc là, du coup, j'ai bossé un quart d'heure et puis j'ai fait une minute devant 4000 personnes. Et tu dis, ah, le kiff est super rentable, quoi. Et puis l'année d'après, j'y retourne. Et puis, et cette année-là, je finis pas sur le podium. Je fais pep. Je suis pas venu là pour trier les lentilles. L'année prochaine, je reviens. Donc je réussis à me requalifier. Et là, je gagne le championnat de France.
Tu es donc champion, je savais pas que tu étais champion de France d'air guitare.
Donc je me retrouve champion de France d'air guitare 2006. Alors je gagne une guitare, hein, c'est assez génial, donc ma première guitare. Et donc je suis super et tout ça. Et puis du coup, quand tu gagnes le championnat de France, tu gagnes une place pour le championnat du monde. Donc en 2006, je me retrouve à aller au championnat du monde d'air guitare.
Où ça ?
À Oulu, en Finlande.
Oh ouais, ok.
C'est tous les ans, c'est en Finlande. En Finlande, on se fait globalement assez chier. Donc, ils inventent des trucs un peu débiles.
Ouais.
Donc, comme le championnat du monde de portée de fiancée, le foot dans les marécages, le lancer de portable. Enfin, il y a plein de trucs. Et là, il y a les championnats du monde d'air guitar. Et il se trouve que ça commence à prendre de l'ampleur, qu'on en parle dans le monde entier. Et moi, j'arrive et il y a 17 pays qui concourent. Donc, tu rencontres un Brésilien, un Américain, un Japonais. Et cette année-là, c'est un Japonais qui gagne. Et là, tu vois la foule en délire devant un mec qui joue pendant une minute du rien. Et là, on arrive dans un niveau de conscience de son corps et de l'art qui est décuplé. C'est extraordinaire, quoi. Et donc, le championnat du monde de second degré, c'est un kiff sans nom. Et donc, l'année d'après, je refais championnat de France, puisque comme j'étais champion de France, t'es qualifié automatiquement. Et puis là, je perds. Je dis, bon, c'est bon, j'ai fait le tour, j'ai fait ce que j'avais à faire.
Le temps de ma carrière de guitare.
Et puis, on me rappelle, la Fédé me rappelle.
Fédération Française d'Air Guitar, bien sûr.
Et entre-temps, on se fait plein de téloches et tout ça. Je me retrouve à jouer avec Chaba sur le plateau du Grand Journal. Enfin, vraiment des moments comme ça où t'es là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire. C'est génial, c'est hyper drôle. Bon, voilà, ça m'amuse.
Pas un côté un peu... Putain, en fait, l'air de rien, peut-être je suis un imposteur, en vrai. Non ?
Bah oui, mais c'est tellement...
Comme tu dis...
Ce qui est génial avec l'air guitare,
ouais,
c'est que tu peux pas nier que t'es un imposteur.
C'est sûr.
Donc, c'est pas quelqu'un qui chante en playback et tout ça. Tu ne peux pas le nier. Donc, comme tu peux pas le nier, d'office, c'est OK, l'imposture fait partie du jeu. Et c'est justement là où c'est intéressant avec cette discipline, c'est que tu dois donner beaucoup plus qu'un vrai guitariste. Parce qu'après, quand tu regardes Jimmy Page qui fait son solo, il fait son doigt, il bouge presque pas pour faire bien les notes, sinon ça marche pas. Bon, à part Pete Townshend qui fait ses moulinets, etc. Mais sinon, en vrai, c'est pas très visuel. Et donc, faut tout exagérer, faut s'impliquer physiquement. Finalement, c'est de la danse.
Ouais.
Et d'ailleurs, étant un grand danseur, c'est dans Hernadette, pour des raisons diverses et variées, on s'est retrouvé, parce que c'était vrai aussi, hein, mais artiste chorégraphique, donc danseur. Donc,
voilà. Très bien.
Donc voilà. Et c'était assez drôle. Enfin, pour moi, c'est le paradoxe. Quand on avait des chorégraphes, je disais, bon, t'as déjà fait danser un tronc d'arbre, allez, bon courage. Et puis voilà, quoi. Et effectivement, tu te dis, on arrive à un niveau de débilité qui est génial. Oh, voilà, si je pouvais continuer là-dedans. Mais pour moi, à l'époque, j'avais déjà fait plein de groupes de musique, le Printemps de Bourges, tout ça, et j'avais bien vu qu'il fallait tout laisser tomber à 2000% pour avoir une infime chance que ça marche. Donc pour moi, c'était de la déconnade, de la rigolade, les week-ends, les vacances, etc., les RTT, mais pas le quotidien, quoi. Et il s'est trouvé que on a fait la Fédération Française d'Air Guitar a organisé
toujours elle
oui, toujours a organisé trouvé c'était tenu par Donana et évidemment l'air guitar c'est plutôt un truc de mec, on va comprendre pourquoi, je sais pas, et
parce que le rock est un truc de mec,
Oui, mais pourquoi le rock est un truc de mec?
Ah oui, ça.
Mais on revient toujours.
Oui.
Et pourquoi il y a beaucoup plus de genre de femmes bassistes que de femmes guitaristes? Mmh. Bref. Grande question au demeurant, ça n'est pas le sujet. Et donc, la fédération trouve qu'il y a trop de mecs et dit, bah tiens, on va organiser un championnat de France de brosse à cheveux. Donc de playback dans une brosse à cheveux, quoi. Et elle invite quand même le fleuron d'Air Guitar France. Donc on m'invite et je me retrouve là à faire chanter dans une brosse à cheveux et tout. C'est un gros kiff aussi. Hein. Et puis c'est là où je rencontre en fait la base d'Air Nadette. Et finalement, il y a un moment, ça commence à prendre forme et il y a Scotch Brit hein,
ouais.
qui se retrouve sur le Morning Café. Et puis, je sais plus pourquoi. Et elle dit, mince, il faut que j'ai une actu. Je peux pas arriver à la télé sans avoir une actu parce que elle avait rien, en fait. C'était de l'esbrouf, quoi. Et elle dit, je suis en train de monter un groupe qui s'appelle Hernadette. Et donc, elle sort du tournage. Elle envoie 10 mails aux 10 gens de l'entourage.
Attends, elle dit en direct à la télé qu'elle est en train de monter un groupe.
Qui s'appelle Hernadette.
Alors que.
Qui n'existe pas.
N'existe pas. Très bien.
L'imposture, on est pas mal, quoi. Et puis, et les 5 premiers qui répondent forment le groupe. Enfin, qui ont répondu. Les 5 autres, pour des raisons professionnelles, personnelles, ce que tu veux, n'ont pas répondu. Et là, on se retrouve à avoir un groupe. On dit, OK, on a une date. Donc on va jouer.
Vous avez une date.
On a une date parce que le copain du chien du cousin à Toto fait une soirée un peu second degré débilos et il cherche un groupe et bien on est là quoi.
Ok.
Donc évidemment on ne répète pas. On se dit merde, peut-être qu'on répète. On se retrouve une heure avant dans le sous-sol pour essayer d'enchaîner nos trucs
ouais.
et on fait un collage à l'arrache et hop quoi. Et là on voit le public. Et c'est un délire total. Enfin, le public, c'est...
Bah oui.
Bon, voilà. À l'époque, il y a, je sais plus, 100 personnes dans la salle. Et la semaine d'après, il y a Camille donc, qui contacte la fédération en disant « Ah, on voudrait un peu d'air guitare. On a vu un blond chevelu un peu rigolo. »
Attends, Camille.
Là.
Camille,
la chanteuse Camille.
Camille.
Oui, la chanteuse Camille.
pas ta cousine, quoi.
et non, pas ma cousine. Et qui fait 5 dates à La Cigale et qui cherche une première partie qui, techniquement, est pas trop chiante, qui prend pas trop de place, etc. Et elle dit, ah bah, moi j'adore l'air guitare, ça me fait marrer. J'ai vu un blond frisé là, donc voilà. Donc en l'occurrence, c'était toi. Et la fédé dit, ah mais attends, ils viennent de former un groupe. Et là, on se retrouve à faire 5 fois la première partie de Camille à La Cigale au bout de 2 mois de groupe. Avec, je sais plus, c'est 1000 et des boulettes.
Bah ouais.
Et là, le public. Et là, ça, à partir de là, ça monte et on se tape un délire. Tout roule quoi. Comme on connaissait, on avait un peu le réseau de l'événementiel dans Paris, ouais. etc., et des marques et tout le bordel. Et là, on se retrouve à jouer dans plein de situations complètement improbables, enfin, toujours à changer dans les chiottes à 12. Et puis, il y a un moment, il y a toujours la fameuse Scotch Brit qui dit « Ah bah attends, mais on devrait faire un documentaire. Non, on devrait faire une tournée américaine. Voilà, ça serait la classe. » Et puis là, elle va chez Canal et elle dit « Ouais, bonjour, on va faire un documentaire sur la tournée américaine. Ah, oh, ça a l'air super, c'est incroyable, d'accord. » Bon, alors, on n'a pas de date.
Putain.
Et là, on trouve quelqu'un un fixeur.
Ouais.
Qui nous trouve des dates donc de New York à Los Angeles en passant par Détroit, Nashville, Memphis, Las Vegas, etc. Et on s'est fait une tournée américaine.
Et un film.
Et un film.
En passant.
Oui, que tu peux voir d'ailleurs toujours. Hein. Et là, c'est un délire parce que tu arrives à New York et puis tu joues sur scène et les gens, ils regardent et puis ça prend.
Ouais.
Et puis à chaque fois qu'on joue, ça prend quoi. Et là, tu dis ok, ça marche. Et le dernier soir, on joue au Standard Hotel à Los Angeles.
Je sais. Mais en fait, le truc, c'est que c'est tellement universel ce que vous faites avec Hernadette. C'est qu'en fait, vous montez juste sur scène.
C'est ça.
Et en fait, vous, comme tu dis, vous dansez.
Donc, en fait, au début, on a quand même eu beaucoup de critiques. Mais de critiques un peu genre, ah ben c'est nul. Bah ouais, c'est nul, on sait bien, c'est une brosse à cheveux. On est d'accord. Enfin, on se fout déjà de notre gueule. Tu peux en rajouter une couche, mais c'est déjà fait, quoi. Mm. T'arrives après la guerre, quoi. Et puis, ça, c'était au début, quand on faisait juste, on collait des morceaux, et puis voilà. Et une fois qu'il y a eu des montages sons avec des vannes, et qu'il y a quelqu'un qui a dit, mais vous feriez pas une comédie musicale? Et là, on a fait une comédie musicale. Et du coup, on s'est dit, qui on verrait bien pour la mise en scène? Bah, Pef, ouais, vas-y, chiche, on l'appelle. Et le mec dit ouais, quoi. Mm. Donc, on se retrouve avec Pef qui fait la mise en scène. Parce que oui, entre les deux, je finis mon histoire de tournée américaine. On finit la tournée américaine et on arrive la veille. Et puis la veille, il y en a qui vont boire un coup. Et hey, mais on dirait pas M là-bas. Mais si, je suis sûr. Attends, je crois qu'on a un copain en commun. Et là, bonjour, vous seriez pas Mathieu Chédid ? Ah si, complètement. Donc, rencontrer M au fin fond de Los Angeles, quand même déjà. Oui, c'est... Et puis, il a enregistré pour Johnny à l'époque. Enfin bref, voilà. Et puis, on dit, demain, on joue en Standard Hotel. Ça tombe bien, je suis à Château Marmont, c'est juste en face, je passe. Et là, il passe avec toute la clique, avec Yodelis, tous les musicos et tout ça. Il voit le show et il fait, mais c'est génial votre truc. Je vous rappelle. Ok. 3 mois plus tard. Alors, je fais 3 dates à Bercy, ça vous dirait d'ouvrir? Et là, on se retrouve avec Sean Lennon, Hernadette et M. Et après, on se retrouve avec M. Il dit, venez sur scène avec moi. Donc, on répète un morceau où je me retrouve. D'ailleurs, c'est dans le DVD. Il y a Mathieu Chédid en face de moi, 15 000 personnes. Et puis, je fais de l'air guitare pendant que lui fait le vrai solo. Et là, tu fais, ok, normal, quoi.
Quand est-ce que cette blague s'arrête?
Voilà, c'est vraiment ça. C'est, tu te dis, waouh, c'est la blague infinie, sans limite, il n'y a aucune limite, quoi. Et puis, après, il nous fait rencontrer Johnny. Donc, on se retrouve à faire un show dans la loge de Johnny, tu vois.
Non, mais c'est pas
et
vrai.
Et puis, il est là, ouais, Château Brutal, vraiment, je ne sais pas où vous les trouvez, vos noms. Et bon, ok, donc t'es là, puis tu croises, tu vois, les Nick Ravitz, machin, tout ça, c'est hyper drôle, quoi. Et tout ça, parce qu'encore une fois, il y a un moment dans ta vie où tu décides de faire une minute de rien. C'est vraiment ça qui est génial. On est deux dans le groupe, il y a 4 comédiens, et il y en avait un autre qui était comme moi en CDI, qui était directeur marketing. Donc voilà, très drôle. Et lui, s'est retrouvé à participer à un concours parce que le pote qui devait le faire a une crise d'appendicite, donc il a été parce que pour le remplacer, quoi. Et ça a changé sa vie, c'est quand même hyper drôle. Et moi, c'est vraiment, si j'avais pas vu ce jour-là d'en sortir concours d'air guitare, bon voilà, je serais toujours en train de faire ou pas la même chose, quoi. Et donc se retrouver propulsé comme ça à Paris et puis partout en France, parce qu'on a beaucoup beaucoup tourné après et puis dans 14 pays, parce qu'après on a fait la version on a fait la version anglaise, et puis tu te retrouves à jouer à l'équivalent d'Avignon en international à Édimbourg, faire 27 dates en 29 jours.
Le fameux festival d'humour d'Édimbourg, voilà. Quoi.
Le Fringe, truc c'est vraiment dingo. Et puis après, on se retrouve à aller jouer en Pologne, en Allemagne, à Tahiti. On dit, ça vous dirait de venir jouer à Tahiti on échange 2 shows contre 10 jours tout frais payés. Ok, attends, je réfléchis, j'appelle ma mère. Ouais, c'est bon. Et puis voilà, quoi. Et donc là, tu joues, et puis à la fin du show, t'as la plage derrière, puis tu vires ton costume, et puis tu vas te baigner, quoi. Voilà, c'est. Et tout ça, encore une fois, pour une minute de conneries, c'est génial. Et donc, ça, c'est toute l'histoire d'Hernadette. Et puis, il y a l'Olympia aussi, il y a vraiment. Évidemment, il y a un jour, te dis, c'est quoi le plus grand rêve pour un groupe français? C'est de jouer à l'Olympia. Et puis, ça, c'était 2013. Donc ça a été relativement vite, quoi. Et là, tu vois les lettres rouges, Hernadette, machin, la salle remplie. Et à l'époque, moi, je commençais le show tout seul. Je faisais l'introduction du show pendant 2 minutes 30 tout seul. Et là, j'entends le public où ça commence vraiment à gronder, là. Et je rentre, et vraiment la sensation, à chaque fois que je reparle, ça me fait pareil, jusqu'au bout de mes doigts de pied, jusqu'au bout de mes cheveux, ça fait... Et là, t'es là, waouh! Et tu te prends une tartine dans la gueule, ça, c'est incroyable. Et bizarrement, j'ai pas du tout le trac pour cette date, par exemple. Pour moi, c'était vraiment la date, comme à la maison, à la cool. Donc voilà, c'est vraiment l'Olympia, c'est vraiment le plus grand souvenir de tous. Ça, c'était génial. Et puis, on avait invité Mathieu Chédid, qui est venu faire une petite apparition pour rigoler avec nous. On a eu le Palma Show, Stéphane Plaza, qui est venu faire une connerie. Enfin, voilà, il n'y a pas de limite à la connerie, quoi. C'est ça qui est génial. Et après, pareil, il y a un pote qui m'appelle. Je fais des reportages pour Planète, ça te dirait de bosser avec moi? Ouais, d'accord. Puis je me retrouve à être reporter. Je fais un show, puis il y a un mec qui vient me voir. On dit, je suis réalisateur, tu voudrais jouer dans mon film? Je fais un truc un peu sur les années 80 avec ta dégaine, roue flaquette et compagnie, ça m'intéresse. Et puis là, je dis, ouais, d'accord. Je me rends compte que c'est un film ciné, que c'est pas du tout... et que je vais me retrouver à jouer avec Gilles Lelouch et Guillaume Canet. Et donc j'ai ma scène avec Gilles Lelouch, je fais bon, je ne dois pas dire que je suis pas comédien. Et voilà, et après voilà, la posture elle va jusque là, puis la posture elle va jusqu'à écrire un bouquin en disant ouais, ouais, c'est normal d'écrire un bouquin. Donc voilà, je suis ce qu'on appelle un slasher maintenant, ils ont
ah oui
un nom là-dessus.
Tu sais que je me suis à moitié embrouillé avec une de mes auditrices parce que elle a utilisé ce terme. Et
d'accord.
D'abord je lui ai dit non, mais en fait ça me saoule parce que pour moi c'est vraiment un truc, un terme qui est venu de la Startup Nation. Et après on a fait un live sur Twitch, tu vois, où elle m'a expliqué qu'en fait pourquoi c'était important pour elle, parce que jusque là dans ces bah, d'ailleurs je vous le mettrai dans les liens comme ça les gens, tu sais, ils peuvent aller voir. On a toute une discussion, elle m'explique que c'est important pour elle parce que jusque-là, comme elle est bonne dans plein de choses, mais pas experte dans un truc, en fait, dans les boulots, les gens lui disent « Non, mais désolé, en fait, t'es pas... Enfin, ça marche pas, en fait. C'est quoi ta spécialité? C'est quoi ton truc ?»
C'est
un drame de l'époque, quoi.
C'est vrai. Et c'est, ils ont trouvé un autre nom qui s'appelle « multipotentiel ».
Ah oui,
c'est,
oui.
En fait, slasher et multipotentiel, ça m'emmerde. Ça m'emmerde parce que c'est juste, c'est ce que j'avais dit chez Marabout, je me refuse rien. Et je me suis dit, merde, c'est un peu bizarre de dire ça, soit prétentieux, soit pas, en disant, bah j'essaye, au pire quoi. Au pire je me plante, au pire c'est mon bouquin, c'est une grosse merde et que les gens le trouvent à chier, bah, je vais pas mourir quoi. Et c'est génial parce qu'il n'y a plus de limite à la créativité. Une fois je me dis, bon, je me souviens, j'étais fasciné quand je faisais mes études, par les mecs, on faisait du graphisme et les mecs ils faisaient en plus un instrument. Je me suis dit, waouh, ouais, c'est fascinant d'avoir deux trucs, quoi. Et puis là, tu te dis, bon, bah, il y a ça. Et puis, je rajoute la musique. Et puis, tu te dis, bah, finalement, je suis aussi comédien. Et puis, danseur, c'est marqué sur. Mais, on s'est retrouvé quand même à bosser avec le mari de Pietragala et à faire des répétitions pendant que Pietragala s'entraînait. Et pareil, tu arrives à des niveaux de. Le fameux moment où, dans le spectacle Bernadette, il y a, on reprend, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Et donc, le chorégraphe qui fait « Alors, sur couille, 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 et on saute !» Et là, ce moment-là, où Pietragala arrive, et évidemment, ça crée une faille comme ça. Et le couple, puisque c'est donc son mari Julien et Marie-Claude, ils sont extraordinaires. La façon de parler de la danse, moi, ça m'a bluffé, parce que la danse, pour moi, c'est un autre monde, quoi. Tu viens du rock gras, du truc qui fait du bruit, la danse classique ou contemporaine. Et là, ils m'ont fait aimer ce truc-là, ils m'ont fait voir. Ils sont passionnants. Bon, c'était une aparté, mais...
Non, mais comment ils ont fait pour te...
Parce que je les ai interviewés pour mon bouquin, parce que ça m'intéressait d'avoir le point de vue d'une danseuse étoile. Comment tu arrives là à soutenir la pression de la perfection, de tout ça, enfin... C'est
parce que là pour le coup il n'y a pas le droit aux peintes comme tu disais.
Voilà, c'est vraiment donc nous avons trois bernaches du Canada. Voilà.
Bonjour les oies.
et donc c'est l'exigence au niveau le plus haut, quoi. Il n'y a pas plus haut que ça. Et la façon dont ils parlent de leur art, de la façon de c'est quoi bouger un corps, c'est quoi utiliser l'espace, c'est quoi tout ça, et vas-y, viens comme t'es en fait. Et ils ont ouvert une école d'ailleurs, enfin vraiment pour que les gens puissent, ça leur va super bien, enfin que les gens puissent vivre ça, mais à leur manière. C'est, moi j'ai toujours cru qu'il fallait danser, ah bah faut bien danser, non, tu bouges ton corps comme t'es, puis bah c'est déjà danser en fait.
Ouais.
On a toujours l'impression qu'il faut bien faire. C'est comme t'es dans ta voiture, tu chantes mal, mais qu'est-ce que t'es content de chanter mal. Ça crée des trucs à l'intérieur, quoi. Et la danse, c'est pareil, quoi. Il y a vraiment ce truc-là de, tu peux exprimer beaucoup plus de choses que ce que tu penses. Donc voilà. J'ai digressé. Donc oui, les slashers. Et effectivement. Et après, c'est compliqué de d'être dans une entreprise. Je pense quand t'es un slasher, sauf si t'as, il y a pas beaucoup de postes qui permettent ça. Donc c'est pour ça que moi, je peux plus retourner en boîte. C'est fini. Donc j'ai monté ma boîte pour le coup. J'ai monté ma boîte avec ma chérie qui s'appelle Bazar Général. Et on s'est dit, bah tiens, on va mélanger. Elle est dans la com interne. On va mélanger nos savoir-faire, l'entreprise plus la déconne. Et on va faire de la déconne en entreprise. Et donc, on était en train de monter les statuts en mars 2020. Donc, on avait le carnet de commandes qui était plein jusque juillet. Bon, voilà. Donc, je me suis retrouvé.
Parce que pour le coup, c'était de l'événementiel dans les boîtes, c'est ça, enfin,
c'est ça. Alors, j'aime pas trop ce mot-là. Bon,
non, mais, des séminaires. Enfin, c'est oui, ça, non, vous organisez des séminaires.
En fait, soit les teufs.
OK.
Et parce qu'organiser une teuf, c'est.
C'est un travail. Hein.
Et surtout, ça fait 10 ans qu'ils organisent la teuf. Bon, ils ont plus l'idée.
Oui.
Et les couillons, vous avez pas des idées un peu pointues là? Et du coup, on faisait vraiment de la teuf sur mesure, adaptée vraiment à une thématique qu'on crée avec les gens de la boîte pour faire vraiment des choses où c'est pas la teuf qu'on balance, c'est la teuf de la boîte. Et ça, c'est vraiment, ça change tout, quoi. Et oui, de le fait de retourner dans l'entreprise quand même, de devoir être sérieux pendant un certain temps, c'est un exercice qui n'était pas forcément facile, mais c'est passionnant de voir. Moi, ce qui m'a vraiment fait kiffer, on a fait des concours d'éloquence. Donc, on forme des gens, là. Il y avait une thématique, enfin, il y avait une.
Comment ça, vous avez fait des concours
En entreprise?
Vous avez créé des concours d'éloquence?
Oui, mais pas avec.
Non, mais en boîte, c'est ça? Dans les boîtes, ok.
Oui. Donc, en fait, l'idée, c'est. Par exemple, on nous appelle en disant voilà, j'ai 200. C'est plutôt les techniciens, des ingénieurs. Donc, ils sont pas très forts en prise de parole en public. Est-ce que vous pouvez faire un concours de pitch? Donc, voilà, pour qu'ils puissent raconter leur métier aux clients de façon la plus claire et la plus sexy, et qui prennent du plaisir à le faire, au passage, si on peut. Et donc, là, on se retrouve à organiser ça, 200 personnes. Et là, moi, je me retrouve avec une équipe, et je sens que personne n'a envie de monter sur scène. Et que ça va être compliqué. Et donc, je devais en faire monter, on avait plusieurs équipes, et je devais en faire monter deux sur scène. Et il dit, ah non, mais je peux pas. Je dis, attends, je vais te dire un truc, tu vas te faire un cadeau. Combien d'occasions dans ta vie t'auras de monter sur scène avec des gens qui sont dans la même merde que toi, qui connaissent très bien et qui vont te soutenir parce qu'ils se disent « Oh putain, heureusement que je n'y suis pas
ouais. !»
Et on va bosser. Et tu vas voir, quand tu vas faire rire les gens, ce que ça fait. Et là, le mec est monté. Il était comme ça, hein, je suis là avec mes petits doigts, genre la peur.
Le trac.
Et il a super bien restitué ce qu'on avait bossé. Les blancs, le rythme, le stand-up, c'est vraiment une histoire de rythme.
Ouais.
C'est vrai que si tu prends n'importe qui raconte la vanne de les vannes de Foresti sur les jouets en bois, etc. No fucking way, c'est pas marrant.
Ouais, c'est pas marrant.
C'est le rythme, l'interprétation. Et le mec a mis des blancs au moment magique. Il avait ce qu'on appelle la zone, quoi. Et tout a glissé et il a fait rire, 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 rire. Il est sorti de scène. Il a fait. Wow, mais putain, c'est incroyable. Et voilà, moi c'est pour
je
moi.
Je vais scène de peur.
Ouais, bah, en tout cas, moi ça m'a vraiment. Je me dis, ok, je sais pourquoi je fais ce métier. Mm. Et d'ailleurs, on parlait de sens tout à l'heure. Je reviens en sortant de la pub et en commençant à faire rire les gens avec Hernadette. À la base, Hernadette, c'était censé être plutôt un truc de un faux groupe, un peu déconne, mais pas spécialement de l'humour. Et assez rapidement, ça a glissé dans l'humour.
Ah, vous avez rajouté des vannes dans le spectacle, etc. Parce que c'est qu'une bande-son, en fait. Vous n'avez pas
c'est
de micro.
C'est qu'une bande-son.
Voilà. Oui, pour les gens qui n'ont jamais vu.
Voilà, il y en a un qui a un micro qui est là pour présenter. Et en fait, on ne joue qu'en playback, qu'en mime, quand on appelle ça des mimes 2.0. Hein. Et si possible, rock'n'roll, vous en prend plein la gueule. C'est comme le seul spectacle où tu avais Slipknot et les musclés dans la même bande-son. donc voilà, l'idée, c'est de taper large et de prendre autant de plaisir à faire un gros Metallica qui tâche qu'un Lara Fabian où t'as toute la salle qui chante Je t'aime. Et là, tu fais non, mais. Pff. Et donc, t'es obligé d'être au 3000ème degré, sinon tu peux pas adhérer à ça, quoi. Et les gens qui étaient dans le public se disent ah putain, ils sont cons comme des gros cons et je comprends leur connerie. Et il y a un moment où ah bah, c'est la culture pop, donc je connais les sons, j'arrive à choper les trucs. Enfin. Et ça a été ça pour moi la vraie victoire d'Hernadette, ça a été de passer de la pseudo-hype parisienne des gens un peu coolos dans les petits clubs à on va jouer à Nevers devant 1000 personnes et à la fin tout le monde est debout quoi. Et voilà, et là c'est, pour moi c'était ça la vraie victoire. Et ce que je disais souvent, là, moi, un des plus grands moments de plaisir de ce groupe, c'était après on allait vendre les t-shirts et c'était faire les cons avec les gens quoi. De partager ces moments-là, de voilà, c'est une super occasion pour rencontrer des gens, de faire un groupe. Hein.
Bah oui, c'est sûr.
donc voilà, et donc j'ai tout mélangé là. Et bon, bref, et bazar général, c'était vraiment cool de pouvoir faire ça. Bon, avant la crise.
Avant la crise.
Donc voilà, donc tout s'est écroulé et puis c'est pas grave. J'ai le temps de finir mon bouquin comme ça.
Voilà. Pour revenir à ce bouquin justement. T'es donc allé voir 50 personnes, tu disais tout à l'heure, ouais. plein de gens différents.
J'ai fait 65 interviews en tout.
Ok.
Voilà, je sais pas pourquoi. J'avais envie.
Mais c'était pour aller chercher le plus d'infos possible, c'est oui. ça, le plus d'expériences oui, oui. possibles différentes.
Et je voulais être très très varié. Et l'idée, c'est bon, bah j'ai eu genre Joey Star, donc parler avec Joey Star du track, c'est super intéressant.
Bah, ça donne quoi en fait? Parce que on imagine tellement Joey Star comme le mec chill, peace, il a pas de problème. En plus, il a une expérience, il a tellement de métiers que.
Oui.
J'imagine.
Mais, alors. Il faut savoir que l'expérience et le métier n'a rien à voir et que j'ai eu des gens qui m'ont dit ben avant ça allait et puis avec le temps je me suis vraiment mis à flipper de plus en plus
qu'il y a un côté t'as pas vraiment conscience de ce que t'es en train de faire,
voilà, et le track, c'est ce que je raconte dans le bouquin, c'est à la carte, c'est à dire que chacun le vit très différemment et il y a aucune règle. C'est-à-dire que tu peux traquer au début de ta carrière et pas à la fin. Et inversement, j'ai eu Alain Bernard, le champion, ouais, champion de natation, il m'a dit très précisément, j'ai eu le track de 21 ans à 23 ans et de 27 à 32 et au milieu pas. Donc voilà, il n'y a pas de règle. Et pour moi, l'idée, c'était d'essayer de comprendre ça. On allait interviewer Laurie, par exemple, ou j'en parlais, Pietra Gala, ou Fovoto. Et aussi, si on a interviewé Nicolas Patra, chanteur d'Ultra Vomit, donc il joue au Hellfest, ouais. Et de voir un peu ce que ça fait, d'aller avoir un champion de snowboard, d'aller avoir donc un commandant de bord, un urgentiste de haute montagne. Là, pour le coup aussi, le petit niveau de pression. Et puis voilà, d'avoir des jeunes, des moins jeunes. J'ai interviewé aussi Lola Dubini, par exemple, qui a une grosse communauté en ligne, et de voir un peu comment elle pouvait gérer ça. Et c'était passionnant parce que j'ai eu des réponses différentes à chaque fois. Et beaucoup de timides, enfin beaucoup, plus de timides que j'aurais imaginé. Et des timides comme moi, en l'occurrence.
Des faux timides.
Des anciens timides.
Qui se sont un peu...
Ou comme, Louis Chédid qui dit, ouais, moi j'étais timide et tout ça. Et puis, la guitare, ça m'a vachement aidé. Et il y en a plein qui disent ça. Et après, effectivement, un mec comme Joey Star, il est pas timide. Mais il dit, moi j'ai quand même la picole, ça détend, quoi. Il se cache pas.
J'imagine que pour Joey Star, c'est pas pareil de faire NTM qu'il fait depuis des années et des années, et puis un jour il se retrouve, il a fait du théâtre.
Oui, alors c'est exactement ça. C'est super intéressant parce que j'ai regardé dans l'interview, et au bout de 3 minutes, il me raconte, moi avec NTM, je suis dans mon jus, tout va bien. Et puis, un jour, je dis, je vais faire du théâtre. Il dit, si à mon âge, on ne peut pas se foutre en danger, qu'est-ce qu'on fout, quoi? Donc, le mec, il est réglo avec ça. Hein, c'est, ouais. Et il se retrouve à faire donc éloquence à l'Assemblée, à être tout seul, sans musique, avec un texte sérieux, devant un public assis, qui n'est pas du tout son public d'habitude. Donc là, le mec, il se met tous les niveaux dans le rouge pour bien flipper, quoi. Et il dit, je la ramenais pas avant la première.
Ouais.
Et il raconte qu'il sort comme ça de scène. Et après, il craque, il pleure, quoi. Et au bout de 3 minutes, il raconte ça. Et là, je me dis, ça fait plaisir d'avoir un mec comme ça, qui raconte ça, qui assume les émotions, etc. Aussi simplement que ça, parce que c'est pas facile. C'est ce que j'explique aussi dans mon bouquin. Moi, j'étais vachement content de voir à quel point les gens se sont livrés honnêtement de leurs émotions. Et on parlait de leurs émotions aussi simplement parce qu'en fait, on n'en parle pas beaucoup des émotions.
Ça, d'une manière générale.
D'une manière générale.
Et,
ouais.
Et du trac encore moins, je pense.
Du trac encore moins. Alors, c'est l'exemple que je prends à chaque fois.
Il y a un côté, c'est pas très glam. C'est pas très...
Exactement. Ouais. C'est pas très glam parce que c'est beaucoup caca, pipi, vomi. Hein, on parle quand même de traces marron au fond de la culotte. Hein, et c'est vraiment la. Je veux dire, les chiottes dans les salles de concert, c'est un truc, quoi. C'est-à-dire que si c'est pas par hasard, s'il y en a plein qui sont juste à côté de la scène. Enfin, et l'architecte qui a pas pensé, c'est qu'il a jamais fait un concert de sa vie. Il y a des moments où il faut descendre 2 étages et tout. Et là, tu fais, ça va être compliqué. Quand tu es une équipe de 12 personnes et que tu n'as qu'un chiotte pour 12, pour toute l'équipe, c'est compliqué.
Ouais.
Voilà, bon, bref. Et effectivement, c'est pas glam. Mais même si c'est pas glam, j'ai été quand même assez surpris. Au début, quand moi j'ai commencé à vraiment m'y intéresser, je vais sur Wikipédia, et sur Wikipédia, t'as 2 lignes. 2 lignes, c'est tout. Rien d'autre, quoi. Et je dis, mais il n'y a pas des gens qui ont cherché des histoires. Et j'ai essayé de chercher des bouquins. J'ai trouvé 4-5 bouquins très techniques sur soit le track et la PNL, le track et le côté le très pointilleux du théâtre et le track, etc. Mais des bouquins généralistes sur le sujet, Bah, il n'y en avait pas, donc c'est pour ça que je me suis dit, bah, il n'y en a pas, bah, je vais le faire. Donc,
oui, voilà. Puis en plus, je crois que c'est un truc qui est vachement universel, mais tu as la sensation, toi, quand tu es le kidam qui est dans le public, justement, que c'est un truc qui vous... qui te sépare un petit peu de l'artiste, tu vois.
Qui te sépare, tu dirais?
Ouais, enfin, en tout cas, ouais, je crois que tu t'en as pas. Enfin, quand t'as pas l'habitude de monter sur scène et de te retrouver dans ce genre de situation dont tu racontais là tout à l'heure l'ingénieur, t'as pas l'habitude de gérer du track.
Ah, c'est vrai, oui, il y a le côté, les tracks, le track des professionnels, ouais, et le track des non-professionnels.
C'est ça.
Ceci étant dit, sur toutes les personnes que j'ai interviewées, toutes ont eu le track à un moment ou à un autre, et pas forcément dans leur milieu professionnel.
Okay.
C'est-à-dire que, par exemple, je prends l'exemple d'un guitariste qui peut jouer devant 50 000 personnes, aucun problème. Par contre, jouer au mariage de son frère, eh ben là, ah, il y a eu un track de maboule, quoi. Donc voilà, comme n'importe quel kidam. Et c'est ça qui est assez rigolo, c'est que le track raconte des choses sur toi. Il faut réussir à le lire, hein, il faut avoir envie aussi, parce que c'est pas forcément très agréable. Mais il y a plein de choses. Enfin, quand je parlais du projet autour de moi, le nombre de gens qui disent ah, vite, vite, j'en ai besoin là, parce que la prise de parole en public, c'est une tannée, c'est horrible, quoi. Et effectivement, j'ai plein de gens, et je l'ai vu en entreprise, hein. Je vois encore la directrice de clientèle qui arrive et qui fait ah, blablabla. Et là, tu fais non, mais qui es-tu? Je te reconnais pas. Et vraiment, ouais. Et oui, et c'est naturel. Alors, j'ai appelé ça l'étonnant pouvoir du track. Parce que j'avais pas envie de dire le track c'est mal, ou il y a des victimes du track, ou tout ça. Le track c'est une réaction émotionnelle, humaine, et c'est très bien qu'on le vive. Et d'ailleurs, ceux qui ne le vivaient plus ont dit allez le chercher.
Ouais.
Parce que sinon, tu dis bah, s'il n'y a plus de track, il n'y a plus d'émotion. Donc le track c'est cool, quoi. Et c'est y a le bon track et le mauvais track, ce que j'appelle la crise de track.
Ouais, le track qui te paralyse, c'est ça.
Voilà, ou le track où tu arrives sur scène et tu n'as plus rien dans le sac, quoi. Où tu as les fameux trous de mémoire, où tu bafouilles, où tu bégayes, où tu n'y arrives pas, quoi. Tu vois, j'en parle et voilà, ça me... et ouais, moi, ça m'est arrivé une fois. On m'avait demandé à une époque d'être intervenant en école de communication. Donc, je dis d'accord, pour cocher. Et puis, j'arrive, premier cours, super. Et deuxième cours, au bout de 10 minutes, je ne sais pas ce qui se passe. Mon souffle se coupe. Et vraiment... plus rien. Et là, t'es face à 25 élèves et tu n'as plus de souffle, rien. Et là, heureusement, j'ai une formation de prise de parole en public. Et bon, tu regardes tout le monde, tu prends une bonne grosse respiration et puis tu prends ton temps et peut-être qu'ils vont trouver ça bizarre, mais t'as pas le choix. Et puis ça passe et voilà, quoi.
Ouais, je crois qu'il y a ce truc aussi où t'as la sensation pour toi que ça dure une infinité. Alors qu'en fait, pour les personnes, c'est juste 2 secondes.
Voilà, c'est ça. Et c'est ce que j'explique aussi. C'est, tu sais, quand tu t'es fait arracher une dent et que tu passes ta langue, t'as l'impression que c'est un cratère qui est vraiment. Et le track, c'est pareil. T'es tellement bouleversé à l'intérieur. C'est un tsunami à l'intérieur de toi. À l'intérieur, on ne voit que dalle. Moi, quand je dis j'avais le track sur scène avec Hernadette, les gens disent mais j'ai jamais rien vu de rien. Rien. Impossible.
T'avais encore le track quand t'étais sur scène ou avant de monter sur scène? Parce que...
Les deux.
Ok.
Les deux. Et c'est vraiment pour ça que ça a commencé à poser problème. Je vais te raconter ma pire histoire de track. C'était donc Édimbourg. On se retrouve. J'avais 40 balais. L'année de mes 40 ans. Enfin, même le mois de mes 40 ans. Et puis, je me retrouve. Bon, on a 27 dates à faire. Par rapport à d'habitude, la scène, elle est plutôt plus petite. Il n'y a pas beaucoup de matos technique, parce que tout ça coûte très cher et tout ça. C'est des petites salles avec personne qui nous connaît dans la salle. Et le premier jour, j'arrive. Et là, c'était un peu l'usine. C'est-à-dire qu'à 17h, on arrivait, on s'installait. 19h, on jouait. 19h32, hop, dehors.
Les barrés, ouais.
Et puis, normal, tout va bien. 17h, j'arrive. Oh, j'ai envie de pisser, là. J'ai pissé un coup. Bon, je rebois une bière. Ah, oh, merde, j'ai encore envie de pisser. Et là, je me retrouve à... Ça s'arrête pas, quoi. Et j'arrive sur scène et le track fait que c'est comme quand t'as bu à peu près 2 pintes, mais comme tu discutes et que c'est intéressant, t'as pas eu le temps d'aller pisser. Et là, tu commences, c'est quand même vraiment compliqué à gérer. Et je me trouve avec ça pendant 1 heure.
À être sur scène, à devoir pisser, et à avoir envie de pisser.
Et à ne penser qu'à ça, parce que ouais, t'es là. Et ça m'a duré les 27 dates. Ça revenait tous les jours à 17h. Et ça ne partait qu'au bout d'1 heure de show. Et là, il y a vraiment des moments où à la fin, je suis surréaliste, quoi. Et tu ne sais pas quoi faire. Et c'est vraiment ce truc-là où je me suis dit, c'est quand même j'ai un problème de professionnel, je ne sais pas à qui en parler, comment, quoi. Il y avait un gros point d'interrogation qui se mettait là. Et en revenant en France, bah, ça s'est arrêté.
Putain.
Et c'est revenu plus tard, en fait, après sur scène. Et je pense que c'était l'usure, c'était le temps pour moi d'arrêter la scène et tout ça. D'un point de vue personnel, j'avais envie de me poser un petit peu au lieu d'être tout le temps en train de. Voilà. Et donc tout mon corps a dit hey, mec,
stop.
Stop, quoi. Et c'est vrai que je passais des moments, franchement, pas fun. Mais en même temps, les souvenirs que j'ai de tous ces concerts-là, c'est des super souvenirs. C'est des super souvenirs. Il y a pas les... Maintenant, j'en rigole. Le track, je me dis, ouais, ça a mis du piment là-dedans. Et merci le track, j'ai pu en faire un bouquin et d'autres choses. Et puis, bah, t'es là aujourd'hui, quoi. Tu vois,
c'est... Ouais, ouais.
Donc, finalement, c'est ça aussi. Il y a vraiment ce truc de résilience en me disant, bon, quand il tombe un truc, comment. Et puis, c'est que du track. Hein. c'est pas la fin du monde non plus, quoi. Et j'ai eu ça aussi à la batterie. C'était génial. Où les baguettes, j'arrivais plus à fermer.
Oui.
J'arrivais plus à fermer ma main et ma baguette glissait. Et donc là, je me retrouve présélection au Printemps de Bourges. On me dit, putain, on a bossé comme des chiens, on est là, c'est cool. Et puis là, je joue et puis je vois ma baguette qui glisse de ma main, mais je peux rien faire. Et heureusement, j'ai prévu, j'ai toujours 10 baguettes dans un sac à portée de main. Et donc, je la lâche et je la balance. Et puis la deuxième, pareil. Et je fais ça. Et puis là, je vire ma veste et compagnie. Je vire ma chemise. Je commence vraiment à y aller en mode vénère. Et là, qu'est-ce qu'il voit dans le public? Il voit un mec qui s'éclate et qui fait le show, point barre. Il n'y a personne qui peut penser que je suis là en train de galérer des ouf, quoi. Donc voilà. Ça... Et puis on fait le show à Bourges et ça se passe super bien. Donc il y a aussi ce truc-là dans tous les témoignages que j'ai eus. Il y a des points de track qui arrivent à des moments. Ça tombe dessus, tu sais pas. Puis c'est comme ça, quoi.
Faut apprendre à le gérer, quoi.
Ouais. À le gérer et à l'écouter et à l'accepter. Le premier truc, c'est l'accepter. C'est moi, c'est ce que j'ai compris en faisant notamment de la méditation. C'est si tu l'acceptes pas, tu peux pas te battre contre le trac. Il va toujours t'avoir. Tu peux pas te battre contre tes émotions, elles vont toujours être plus fortes. Ouais. Donc le seul truc de dire, voilà, je passe un moment désagréable, c'est normal. Donc c'est j'ai interviewé une psychiatre qui s'appelle Stéphanie Ayusso, qui a écrit 3 livres, enfin, même plus d'ailleurs, sur les émotions, ce qui est vraiment passionnante. Et elle me racontait comment ça marche une émotion. La vie naturelle d'une émotion, c'est t'es un homme préhistorique, tu vois un tigre à dents de sabre, ou un gros surmulot, bon, et puis t'as peur, et ta peur, elle dure 2 minutes, 2 minutes 30. Le temps que t'aies eu cette émotion, t'es déjà parti à l'autre bout de la savane et tout va bien, quoi. Donc, une émotion dure 2 minutes 30. Comment ça se fait que nous, gros couillons, on se fait des émotions qui durent des années, de peur, de machin, de ceci, cela? C'est parce qu'on dit, ah non, bah non, peur, bah non, t'as pas besoin d'avoir peur. Ça... Et donc, on t'apprend pas à vivre ton émotion complètement. Parce qu'il faut dire aussi que le pic, il n'est pas du tout agréable. Donc, en général, on a tendance à couper l'émotion. Et comme on la coupe, eh ben, elle fait pas son travail, du coup, elle reste dans un coin. Voilà, c'est vraiment tout ce truc-là. Et donc, si on accepte qu'on va avoir une émotion franchement désagréable, c'est beaucoup plus facile à vivre. Et vraiment, quand j'étais sur scène et que j'avais vraiment des moments de tension où j'étais pas bien, je me dis, mec, accepte, laisse passer. Et effectivement, ça avait tendance vraiment à s'alléger en laissant passer le truc. Comme dirait Tété, il avait fait une belle image dans l'interview que j'avais fait avec lui, c'est comme dans les arts martiaux, tu joues la force de l'autre qui vient vers toi, et hop, tu continues son mouvement et tu le fous par terre au passage, quoi. Et c'est vraiment la même chose, quoi. T'accompagnes ça.
T'accompagnes l'émotion.
Voilà.
Mais c'est du travail. Bah, t'as oui. Médité et tout, quoi.
Oui, moi, j'ai fait la méditation, la cohérence cardiaque.
Je sais pas ce que c'est.
Alors, la cohérence cardiaque, c'est un truc qui commence à se développer tout doucement et qui est vraiment très intéressant. C'est que, en gros, tu vas apprendre à ton cœur à respirer à un rythme particulier. Donc il y a une appli, hein, par exemple, qui s'appelle Respirolax, et qui te permet de baisser ton stress, parce que quand on est stressé, la respiration s'accélère. Donc comme elle s'accélère, tout ton corps est en train de dire « Oh, le cœur s'accélère, c'est qu'on a peur, on a peur, on a peur !» Et là, tout commence à flipper, tout se met en route. Et si tu arrives à descendre ta respiration, enfin à ralentir ta respiration, tu ralentis les mouvements de ton cœur, donc il n'y a plus de signaux de peur, de ceci, cela. Donc du coup, tout se détend en toi. Et donc, en gros, c'est parce que la respiration, c'est la seule chose sur laquelle tu peux avoir un impact. Tu peux pas dire à ton estomac, digère mieux ou tout ça.
Oui, ça c'est sûr.
Voilà. Donc, et donc, si tu fais ça tous les jours, tu t'en fais 3 séances de 6 minutes, t'apprends à ton corps à mieux gérer tes émotions, à mieux les appréhender, parce que tu te protèges en apprenant à ton corps à respirer convenablement. Et on se rend compte qu'il y a un problème de respiration. Enfin, je me suis rendu compte, personnel,
ouais, universel,
et universel, ouais, de respiration, où avec nos vies, enfin, on n'a pas été conçu pour ce qu'on fait, quoi. On a été conçu pour faire homme chasser, homme faire enfant, et puis
oui, c'est
et c'est tout, quoi. Ouais. Et pas homme devoir gérer 372 mails dans la journée, et puis etc etc. Donc forcément qu'il y a un moment, on est toujours en train de, ouais, de courir après le souffle.
Bah, je connaissais pas la cohérence cardiaque, tu vois. Respire, voilà, relax, tu dis, c'est ça.
Respire, ouais, relax.
Okay.
Et je t'invite à aller regarder les choses là-dessus. Alors c'est marrant, je regardais hier, pendant le confinement, je me suis mis à la guitare. Je me suis dit, tiens, voilà, faut quand même que je m'y mette un jour.
Finally.
Finally, exactement. Il m'a fallu du temps pour apprendre à apprendre. Et donc, je suis tombé sur un tuto de grade de professionnel de la guitare qui expliquait son track, justement.
Yeah.
Et il parlait aussi de cohérence cardiaque, de méditation, enfin vraiment les grandes choses que je peux aborder. Et c'est vrai que ces trucs-là, la cohérence cardiaque, c'est fantastique, c'est vraiment fantastique. Et tu peux même le faire en état d'urgence. Merde, je passe dans 30 minutes.
Ouais.
Tu te mets ça, ça te fait baisser vraiment d'un cran.
Et ben merci pour le tips.
Voilà.
Et puis, merci Romain, en fait. Hein, vraiment.
Je sais pas combien de temps ça dure.
Alors là, ça fait une heure qu'on parle.
Ça fait une heure, mais tu vois, une grande babel. Là.
Mais non, mais... grande babel. Alors pour les gens qui ne savent pas, c'est une expression d'une heure. Voilà.
Ça veut dire grande
que tu
gamelle.
Parles... Ça veut dire que tu parles beaucoup.
Voilà, c'est ça.
Merci beaucoup Romain, je mettrai tous les liens pour te suivre sur les internets, etc., etc. Et puis le lien vers ton bouquin aussi,
et bah...
les notes du podcast, comme ça je crois qu'il y a plein de gens que ça va pouvoir aider.
Oui, alors j'ai écrit ce bouquin de façon volontairement pour tout le monde, pas très technique, avec des vannes dedans, oui. On se marre bien, je raconte mon histoire au début pour bien que ça mette à l'aise tout le monde sur on va parler de petits trains du caca, hein, voilà. Et puis et c'est la vraie vie, quoi. C'est pas et j'ai pas essayé de tourner autour du pot. C'est pour moi, oui, c'était intéressant.
On l'entend, si tu veux, donc
appeler un chat. Voilà. Bon, voilà, bref,
merci Romain.
Eh bien, avec plaisir.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit « Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. » Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.